Le clivage, c'est bon, tout le monde
oui, filme tout.
En direct, les films, les courts-métrages, du spectacle. Ouais.
9h40, dernier instant M de la semaine.
Parce que le lapin, c'est exactement Charlie Chaplin.
Pour une presse indépendante.
Formation numérique. Exciting.
Le nez sur l'écran.
Il est de retour dans l'émission avec sa valise de courrier, Bruno Denas, le médiateur des antennes de Radio France, l'homme qui vous lit et qui vous répond. Bonjour Bruno.
Bonjour Sonia De Villa, bonjour à tous.
Vous vous attaquez ce matin à un dossier brûlant, j'en rajoute évidemment le cas Affaires Sensibles, l'une des émissions d'Inter qui fait le plus réagir les auditeurs. Et pourtant, ce sont ce que les séries américaines appellent des cold cases. Des affaires classées. En quoi reste-t-elle alors si sensible dans l'opinion publique? Vous posez la question, Bruno, à Fabrice Drouel, producteur de l'émission, et Christophe Barrère, son rédacteur en chef. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Sinon, c'est vendredi, de l'actu, un jeu, et Philippe Vandel. Salut Philippe.
Bonjour Sonia.
Philippe Vandel dans l'Instant M.
L'Instant M. Tous les médias sont sur France Inter, avec Sonia De Villers.
Eh bien ça aussi c'est sensible. Hier, diffusion sur RMC et BFM TV du témoignage à visage découvert de Sonia, la jeune femme qui a permis de retrouver Abaoud et qui se dit aujourd'hui abandonnée par les autorités publiques. Par la suite, le parquet de Paris, dans la journée, a ouvert une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui. La procédure vise aussi le site du Point, lepoint.fr, et portera dans un autre volet sur des chefs de violation du secret de l'instruction.
MTV has become a phenomenon. As I say, believe it or not, the banks wanted us to sell MTV. And MTV is now in 335 million households around the world. We're the only company.
Ça, c'est un personnage pour vous, Fabrice Drouel. Connaissez-vous le démesuré Sumner Redstone?
Bien sûr.
Alors, c'est ce qu'on appelle un magnat des médias. Il bluffe, évidemment.
Complètement.
C'est ce qu'on appelle un magnat des médias de la trempe et de la génération d'un Barry Diller ou d'un Rupert Murdoch. 60 ans que Redstone dirige deux empires, Viacom, 2MTV, Nickelodeon, la Paramount et CBS, ça pèse très très lourd, ça pèse 40 milliards de dollars en bourse aux États-Unis. Il se retire des affaires, c'est commenté partout ce matin dans la presse mondiale, mais attention, Redstone, 92 ans, est immortel, c'est la légende. Je vous en raconte un petit bout. Un jour de 1979, son hôtel à Boston est ravagé par un incendie. Il reste des heures pendu au balcon de sa chambre alors que les flammes lui dévorent les jambes, détruisant tendons et artères. Ses chances de survie sont très faibles. Il frôle la double amputation. Sumner Redstone s'est non seulement remis dans la course, mais il a couru le marathon dans la foulée. Allez hop, on joue comme tous les vendredis à reconnaître une voix tirée des bandes-son de la radio ou de la télé. Si vous dégainez rapidement votre réponse à cette adresse, l'Instant M, tout attaché, l'Instant M at radiofrance.com. Je vous offre le DVD de cette formidable émission dont je vous ai déjà parlé, Secret d'archives, une coédition Arte-Lina. Vous êtes prêts? Alors on y va.
Voilà, le souvenir d'un gamin qui rêvait, quand ses parents travaillaient à la sucrerie, de faire de la radio, de faire de la télé. Et quand j'en parlais, les gens me disaient « oui, bien sûr
». Oui, bien sûr, c'est dur. Hein. Je vous rassure, il a fait de la radio et de la télé, il fait toujours les deux d'ailleurs. L'Instant M at radiofrance.com. Vite, vite, courez et soyez les premiers. Et puisque Bruno Denas vous a invité, Fabrice Drouel et Christophe Barrère, oui Eh bien, j'en profite pour vous demander à vous la voix qui vous a marqué.
Oui, moi, c'est deux voix qui sont des voix contemporaines. C'est celle de Gérard Courchel pour son élégance et celle de Christophe Ondelat pour son naturel. Et j'essaie de m'inspirer de cela tout en restant moi-même.
Et Christophe Ondelat, c'était où?
Christophe Ondelat à France Inter.
À France Inter,
bien
c'est
sûr.
Ça, c'était le Christophe Ondelat de la radio avant le Christophe Ondelat de la télévision.
Oui, le 19h, le 13-14, chemin que j'ai emprunté juste après lui d'ailleurs.
Voilà, y compris chemin des affaires sensibles et des dossiers classés d'ailleurs. Christophe Barrère.
Alors, je dirais pas Chancel, parce que ça a été trop dit.
Mais on peut toujours dire Chancel.
Voilà, je dirais Roger Coudert.
Roger Coudert, pourquoi? Ouais.
Écoute, parce que jeune, j'écoutais Roger Coudert commenter les matchs de rugby.
Ouais.
Et je suis un fan du rugby et je me rappelle cette voix qui venait en plus du match donner certaines, comme ça, images, couleurs, valeurs. Le sport que j'aime beaucoup.
Ça s'entend aussi un petit peu dans la voix.
Alors, voilà, c'est aussi du pays.
C'est un gascon avec tout ce que ça comporte.
Allez, quand vous entendez Vandel dans l'instant M, le week-end n'est plus très loin.
Ouais, je vais parler de télévision. Le 27 janvier dernier, Christiane Taubira était l'invitée sur Canal+ de Michel Denisot dans l'émission Conversation secrète. Mm-hmm. Et le matin même, elle avait démissionné de son poste de garde des Sceaux et une citation de l'émission était reprise dans toute la presse. L'info est la suivante. Christiane Taubira écarte l'idée de participer à une primaire et quand Denisot lui pose la question, elle répond, je cite, « Non, c'est absolument sûr. Or, ce que j'ai lu, c'est pour vous 10 fois ou 15 fois, je l'ai entendu 0 fois. » J'ai appelé des journalistes politiques, aucun n'a entendu la phrase de ses oreilles. Tous citent l'AFP ou un confrère ou Michel Denisot qui leur a raconté, comme il l'a fait dans le petit journal de Yann Barthès. Mm-hmm. Mais ce n'est même pas dans la bande-annonce de l'émission. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'habituellement, ici dans cette chronique, je passe des extraits sonores. Mais aujourd'hui, je ne suis pas arrivé. Vous rappelez la célèbre phrase de Georges Marchais quand il a balancé en direct à la télévision « Taisez-vous, elle cabache ». Eh bien, il ne l'a jamais dit. Et ah c'est bon d'ailleurs pour ça que l'extrait ne repasse jamais. Vous en voulez d'autres?
Non mais vraiment?
Mais bien sûr, et Dieu dans tout ça. Jacques Chancel n'a jamais posé cette question, pas une seule fois. Et quand il s'est agi de faire son portrait...
Christophe Barrère, il n'a jamais dit et Dieu dans tout ça?
Mais alors, je vais vous dire...
On va tout de suite fouiller les archives.
Je vais vous dire, il me l'a dit. Et pour faire son portrait, dont je crois que c'était empreinte, oui, un journaliste a écouté toutes les archives. Il n'a rien trouvé. Mm-hmm. Tout à fait, Thierry. Jean-Michel Larquet n'a jamais dit ça. C'était une invention des guignols. Et après, il l'a dit pour se moquer des guignols à l'antenne. De la même façon que Richard Virenque, le cycliste, le vrai, n'a jamais dit « J'ai été dopé à l'insu de son plein gré, de mon plein gré. Mm-hmm. » C'est sa marionnette qui dit ça. Alors, vous connaissez le slogan le plus célèbre de mai 68. Il est interdit d'interdire. Dire et le plus décrié. Or, ce n'est pas un slogan de mai 68. C'était une boutade inventée par Jean-Yann, justement, pour se foutre de la gueule des 68ards et de leur slogan absurde. Bam ! Malraux n'a jamais dit ni écrit « Le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas ». Et Voltaire n'a jamais... Non, et Voltaire n'a jamais écrit cette merveille. « Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. » C'est ballot, parce que c'est celle qu'on cite tout le temps. Où vous faites... Alors... Question difficile à prononcer. Où avez-vous fait l'amour la dernière fois?
C'est à moi que vous la posez.
Ne répondez pas. En fait, c'était une question de Jean-Luc Reichmann quand il présentait les amours. Le mari répond dans la cuisine et la femme répond dans l'anus. En 98, tout le monde parle de cette séquence qu'il a vue au zapping. Évidemment, vous avez compris, elle n'existe pas. Et à l'occasion de la nuit du zapping, ils ont fait un documentaire sur le sujet. La production qu'ils ont interviewée a confirmé le pipeau, ça ne s'est jamais passé. Et le présentateur Jean-Luc Reichmann raconte qu'il était souvent arrêté dans la rue et félicité pour cette séquence imaginaire. C'était en 98. Mmh. Et en 2015, tout s'est mélangé dans la tête. Dans son autobiographie, Jean-Luc Reichmann raconte l'histoire comme si elle était authentique. Donc méfiez-vous des phrases que vous avez entendues. En revanche... Ça sera ma conclusion. Mm-hmm. Édouard Balladur et Valéry Giscard d'Estaing ont vraiment dit ceci. Et ça sera à la fois, Sonia, votre souhait et ma conclusion.
Je vous demande de vous arrêter.
Au revoir.
Ça, ils l'ont dit, pour de vrai.
Taisez-vous, Vandel. Bon, j'exige une armée de fact-checkers sur cette affaire parce que je suis extrêmement troublée. Vous venez de démolir un certain nombre de statues.
Hein. Et déçus.
Et de mythes.
Mais vous de mythes, exactement. Ça n'existe pas. Vous avez déboulonné pas mal de choses. Bon, alors, merci Vandel. On a une gagnante qui a reconnu...
Coé.
Bravo, Sébastien Coé. Qu'est-ce qu'il est fort, ce Vandel. Formidable. Bravo, Élise. C'est vous qui êtes arrivée la première. Et alors, sinon, il y a eu pas mal de propositions. On a des auditeurs qui ont cru reconnaître Nagui, qui ont cru reconnaître De Chavannes, qui ont cru reconnaître Arthur et aussi Antoine. Bref, allez, direction Affaires Sensibles, qui n'est rien de moins que l'émission, la deuxième émission la plus podcastée de tout France Inter. La classe.
Lâchez vos écrans. Vous êtes sur France Inter.
Monsieur Chirac, tous mes respects, monsieur le président. Je me présente. Je m'appelle Vincent Imbert, j'ai 21 ans. J'ai eu un accident de circulation le 24 septembre 2000. Je suis resté 9 mois dans le coma. Tous mes sens vitaux ont été touchés, à part l'ouïe et l'intelligence. Je bouge très légèrement la main droite en faisant une pression avec le pouce à chaque bonne lettre de l'alphabet. Ces lettres constituent des mots et ces mots forment des phrases. C'est ma seule méthode de communication. Les médecins ont décidé de m'envoyer dans une maison d'accueil spécialisée. Vous avez le droit de grâce. Et moi, je vous demande le droit de mourir.
Mmh. Oui, des affaires sensibles qui demeurent sensibles, qui font écho à nos souvenirs, à la mémoire collective, à ce qu'on a vécu, mais à ce qu'on vit toujours. Alors, Bruno Donnaz, vous êtes donc le médiateur des antennes de Radio France et vous avez souhaité interroger Fabrice Drouel et Christophe Barrère sur la façon dont ils fabriquent cette émission et sur ce qu'elle a suscité chez nos auditeurs.
Exactement, c'est une émission en effet qui suscite beaucoup de réactions. Alors, on y reviendra. C'est une émission, donc, on va comme le rappeler pour ceux qui n'écoutent peut-être pas tous les jours, 7 à 15 heures. Et vous revenez donc sur des affaires qui ont marqué notamment une époque. Alors Fabrice, c'est quoi un peu la ligne éditoriale ?
Elle est très claire, il s'agit d'aller explorer les allées du passé pour en traquer les résonances. Alors je vais vous donner un exemple très simple, celui d'hier, tout bêtement. On a fait l'émission sur le combat du Larzac et les paysans du Larzac dans les années 70, qui nous renvoie avec les mêmes ingrédients assez extraordinaires au combat que mènent les opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et ça c'est... Alors on pourrait multiplier les exemples, il n'y a pas toujours des résonances, il ne faut pas les chercher de façon artificielle, mais quand elles sont là, elles s'imposent et elles nous renvoient à une période qui peut aller de 10 ans à 20 ans en arrière, mais qui nous concerne encore aujourd'hui, avec ces résonances-là. C'est ça le cœur de la ligne éditoriale de cette émission.
Avec beaucoup de documents aussi.
Et sur beaucoup de documents, c'est un récit entrecoupé de documents.
C'est la... Alors ça justement, c'est Christophe Barrère, votre rédacteur en chef, qui s'en occupe. Alors, comment vous y prenez pour retrouver toutes ces pépites, en quelque sorte ?
On va chercher. On va chercher d'abord, on mène une enquête, une investigation, pas une investigation dans le présent, auprès des gens... On va dans les archives de France Inter, au service documentation.
On trouve ça facilement ?
Oui, très facilement. France Inter, tout est bien réglé.
Et alors, en même temps, ce qui est très intéressant, c'est que vous utilisez les archives pour scander la narration, hein, qui est portée par la voix de
Fabrice. Sonia, je parle des archives avant la narration.
C'est
on essaie de chercher quel angle on va traiter, comment on va le traiter. Et ça, on retrouve ça dans la presse magazine ou la presse info de l'époque. Par exemple, si c'est sur les affaires 70 ou même le Larzac, on va aller chercher comment le Larzac a été traité à cette époque-là. Ensuite, on cherche dans les archives de l'INA, donc les archives audio, les archives télévision, et on commence à bâtir le récit.
Mais c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que vous balayez une très large palette d'archives. Il y a des différents niveaux d'archives et il y a surtout différentes natures d'archives dans ce que vous utilisez.
Oui, mais au fur et à mesure du travail, on sait comment on veut raconter cette histoire-là. C'est un peu comme un documentaire. On commence à faire un plan, on sait par où on veut passer. Et donc, on ne va pas aller chercher les archives sur 40 ans non plus. Bon, ce travail nécessite quand même pas mal de jours. Et ensuite, on écrit et on place nos archives qui viennent scander le récit que porte Fabrice. Et ces archives, elles ont deux valeurs. Elles ont une valeur très simple, c'est de donner aux gens la couleur de l'époque, le ton de l'époque. Ça, c'est très important.
Et les codes et la façon dont on parlait aussi à l'époque.
Et elles viennent aussi, à un moment donné, crédibiliser le récit.
C'est ça.
Elles viennent l'ancrer dans un réel. Alors ce réel, c'est notre histoire évidemment, mais c'est l'histoire d'une génération de 25 à 65 ans, à 70 ans.
C'est ça, c'est extrêmement important de le rappeler, c'est-à-dire que vous restez dans le périmètre de la 5e République, c'est une histoire qui a été vécue par les auditeurs.
Et vous avez raison, l'espace temporel c'est la 5e République. Ce qui est saisissant, c'est quand on raconte des histoires que moi-même j'avais traitées en actualité quand j'étais présentateur de journaux. Là, on prend la vraie dimension, parce qu'il n'y a que le recul qui rend lucide. Et c'est ce qui rend aussi le métier de journaliste difficile, parce que comment évaluer au plus juste la trace que va laisser dans l'histoire le fait que vous étudiez et que vous diffusez. Comment évaluer ça? On n'y arrive pas toujours, évidemment, parce que c'est difficile. Mais quand vous faites ça avec un recul de 20 ans, là, vous prenez la vraie dimension d'un fait.
Mais parfois, il y a des révélations aussi, d'ailleurs.
Parfois, il y a des révélations. Alors, c'est pas
produit cette semaine, je crois, d'ailleurs, notamment.
Ça s'est produit cette semaine avec
la guerre du Golfe.
Avec la guerre du Golfe, nous avions Bruno Le Maire comme invité, qui était le principal conseiller de Dominique de Villepin, et qui nous a raconté jusqu'à quel point ils ont hésité avant de prononcer cette fameuse phrase « Je suis le représentant d'un vieux pays » qui était une réponse à Rumsfeld, qui avait traité l'Europe de vieux continent. Jusqu'au bout, dans la voiture, ils se sont dit, ils ont rayé la phrase, ils l'ont remise, et puis ils l'ont rayé. Donc ça, c'est une révélation. Pour autant, ça n'est pas... faut prendre cette émission pour ce qu'elle est. C'est une émission d'histoire, c'est pas une émission de révélation. Il faudrait que nous ayons 6 enquêteurs à temps plein pour le faire, ça n'est pas possible.
C'est pas notre rôle.
C'est pas notre rôle. Mais si nous avons quelques coulisses, comme on a eu avec Bruno Le Maire, évidemment, nous sommes preneurs et c'est formidable.
Alors en même temps, donc, vous le dites, vous au micro de France Inter, Fabrice Drouel, vous avez pu mesurer le retentissement médiatique d'une affaire il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et aujourd'hui, en la racontant après coup, vous pouvez mesurer à quel point non seulement elle a marqué, mais à quel point elle est encore à fleur de peau.
Et c'est tout l'intérêt de cette émission, et c'est tout l'intérêt aussi de notre découverte. Donc quand on est fasciné par nos propres découvertes, on peut mieux les diffuser, ces découvertes-là. Et c'est aussi, on a des réactions, effectivement, on en parlera avec Bruno Delas, mais les gens sont très attachés à ça. On n'a rien inventé, c'est l'histoire, c'est la fonction de l'histoire, c'est que le passé éclaire le présent. Hein. Donc on ne l'a pas inventé non plus.
Bruno, mais
c'est
l'espace temporel. Les
alors justement, il y a une réaction, en ce moment c'est vraiment, j'allais dire même terrible, parce qu'en plus vous subissez des insultes et des menaces. C'est notamment l'affaire, vous êtes revenu sur Dieudonné, sur l'interdiction il y a 2 ans de ces spectacles pour antisémitisme. Et là, bon, c'est vrai que j'ai reçu aussi pas mal de messages. On dit que vous n'êtes pas c'est subjectif, un ton inquisiteur, méconnaissance de ces spectacles, vous n'avez pas eu le courage de l'inviter, etc., etc. Vous attendiez de telles réactions sur un tel sujet?
Non, parce qu'il y a une disproportion incroyable.
J'ai même vu le tweet que vous avez reçu hier, qui est vraiment très menaçant.
C'est une horreur. Il y a des menaces, effectivement. Il y en a même une qui écrit « vengeance ». Mm-hmm. Et la connotation violente qu'il y a là-dedans. Les affaires sensibles, forcément, elles méritent leur titre. Elles sont sensibles et elles provoquent des réactions quelquefois assez vives. Mais ce sont des affaires sensibles, pardonnez le jeu de mots. Je n'ai pas une cible, on n'a pas une cible. Mm-hmm. Je ne suis pas réveillé un matin en me disant « tiens, je vais me faire Dieudonné mm-hmm. et ça va me faire plaisir ». Pas du tout. Je ne reçois pas les protagonistes. On me dit « il n'a pas pu se défendre ». Mais se défendre de quoi? C'était juste des faits. C'est pas le concept de l'émission de recevoir les protagonistes. D'abord parce que techniquement, c'est difficile. La moitié sont morts, l'autre moitié est en prison. Mm-hmm. En gros, donc ça règle le problème. Voilà. Et puis je n'ai pas dit, jamais je n'ai qualifié Dieudonné d'antisémite, j'ai dit antisioniste, qui mm-hmm. renvoie à la bannière que lui-même portait.
Brandit.
Je connais la différence entre les notions d'antisémite et d'antisioniste, j'en connais aussi, hélas, la porosité.
Christophe Barrère, ce qui est intéressant, c'est que dans les affaires que vous avez traitées, il y a des choses totalement explosives, comme l'affaire des moines de Tibérine. Ah bon, j'ai gardé un petit bout de votre émission.
Les autorités algériennes ont conscience qu'il faut agir vite. Une véritable course contre la montre est engagée. Les islamistes armés de la région ont énormément souffert des derniers ratissages des forces de l'ordre. À l'évidence, ils comptent beaucoup de blessés dans leur rang, d'où d'ailleurs le rapt parmi les 7 religieux d'un médecin.
Voilà une des archives que vous avez utilisées dans cette émission. Vous n'y êtes pas allé de main morte, et pourtant, ça ne déclenche pas autant de réactions qu'un dossier de Dieudonné.
Non. Tout simplement parce que je pense qu'il y a 10 ans, 15 ans, cela aurait déclenché beaucoup de réactions de la part du gouvernement algérien.
Que vous avez mis directement en cause. Hein.
Oui, nous et les gens qui ont mené des enquêtes. Il y a eu plusieurs documentaires, plusieurs livres sur le moine de Tibérine. Il faut avouer quand même une chose, c'est que c'est 7 moines qui ont été assassinés, qu'on a décapités, dont on n'a pas retrouvé les corps. C'est pas non plus très léger hein, comme histoire. Ça s'est passé en Algérie. Est-ce que c'était le GIA, c'était pendant la guerre civile, c'était une période terrible, très 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 sensible. On sait aujourd'hui, et on pense aujourd'hui, certaines personnes qui ont enquêté dessus, et nous, les archives que vous avez tout là, donnent comme ça le gouvernement algérien, peut-être à travers ses services secrets, comme possible responsable.
Voilà. Responsable.
Et de faire porter au GIA.
Absolument. Et donc ça, c'est à l'antenne de France Inter, et c'est extrêmement intéressant de voir ce qui fait exploser les réactions.
On n'a pas accusé quelqu'un, on a simplement organisé un récit, mis des archives, elles existent, tout ça existe.
Mais quand vous mettez en scène l'affaire Ben Barka, quand vous mettez en scène l'affaire Goldenberg, etc., vous touchez à des choses qui, il y a 10 ans, il y a 15 ans, auraient fait péter le standard.
Absolument.
C'est un peu cavalier comme expression.
Non, mais c'est vrai, on touche à des choses sensibles. Maintenant, il n'y a pas que ces choses-là. Vous savez, on ne peut pas aujourd'hui, on pourrait aujourd'hui proposer aussi une contre-enquête. C'est pas le cas, c'est pas le rôle de l'émission, puisqu'on est là pour ça. En revanche, tous les auditeurs et tous les gens qui écoutent cette émission peuvent eux-mêmes, après, aller chercher, après, à lire ces livres, se faire une idée de ce qu'on raconte. Pareil sur l'émission de Dieudonné.
Et puis, il y a des réactions aussi assez émouvantes quand vous retracez la mort de Coluche, la mort de Claude François. Enfin, c'est d'autres types de réactions chez les auditeurs.
Il y a aussi un déferlement aussi formidable. C'est presque des messages d'amour, quelquefois.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, il faut être honnête, parce qu'il n'y a pas que des insultes.
J'allais
consulter d'ailleurs aussi tous vos commentaires. En général, les gens d'ailleurs sont très sensibles au fait de revenir.
Ils nous disent merci.
Sur des choses qui les ont marquées, en plus. Et en plus, en savoir plus, ou quelque chose qu'ils avaient un peu oublié, quelque chose. Donc, vous allez aussi plus loin. Et ça, visiblement, ça plaît aussi. Donc, soyons honnêtes.
Et il y a beaucoup de jeunes, Bruno. Ça, c'est important. Ouais, beaucoup de jeunes, de moins de 30 ans, qui nous disent « j'étais pas né, je savais que c'était important, mais je ne savais pas pourquoi. Merci. »
C'est ça, et puis qui revivent les Cousteau, les Tabarly, c'est-à-dire ces grands aventuriers
Absolument.
C'est
un grand bonheur pour nous.
Ça, ce sont des récits qu'on va essayer de porter de plus en plus aussi à affaires sensibles, qui ne seront pas obligatoirement des faits divers ou obligatoirement des affaires
politiques. Pas que du sang, justement, parce que c'est parfois un peu le reproche qu'on a fait.
Vous voyez, on a eu, c'est vrai que Cola a été une superbe émission. Dès le début, on a essayé de faire ça. possible de faire un peu plus. Oui.
Voilà, Affaires Sensibles, c'est tous les jours, c'est à 15h et c'est largement podcasté. Faites partie du club. Merci à toute la bande de l'Instant M qui a fabriqué l'émission cette semaine. Et je passe la parole à Bruno Duvic qui est en direct de Calais. Bonjour Bruno.
Bonjour Sonia. Et oui, un jour en France, en direct du port de Calais ce matin. Les bateaux qui partent vers l'Angleterre sont sous nos yeux. Le terminal d'Eurotunnel est tout près. La jungle est à 500 mètres. C'est une ville qui vit avec ce camp. Mm-hmm. La tension est montée d'un cran ces derniers jours. Parole de Calaisien ce matin sur France Inter. Autour de la table ici et au micro de Mathilde Dehimi. Comment vivent-ils cette situation? Quelles conséquences pour et dans la ville? Du sens de la solidarité et du ras-le-bol, qu'est-ce qui l'emporte désormais? Un jour en France, en direct de Calais, c'est dans 5 minutes, Sonia.
Merci beaucoup Bruno, on vous retrouve juste après les infos.